Voici vos actualités locales et régionales. Au microphone, Kim Lacaille. L'Association des directeurs de police du Québec a réagi à la décision de la Cour supérieure d'interdire aux policiers de procéder à l'interception de véhicules sans motif valable dans le but d'empêcher le profilage racial. Bien qu'elle se dise en accord avec la nécessité de respecter les droits de tout citoyen et s'aligne avec la lutte à la discrimination basée sur la race, l'association exprime une certaine inquiétude au niveau de la capacité des policiers à faire respecter les lois du Code de sécurité routière dans ce contexte. Didier Deramont, directeur général de l'ADPQ, explique en quoi le récent jugement de la Cour supérieure interpelle son association qui ne croit pas que l'abolition de l'article 636 du Code de la sécurité routière soit la solution.
Les autres, ce qu'on dit, c'est que le 636 du Code de la route, de l'enlever n'est pas nécessairement une solution parce que conduire, c'est un privilège. Hein? Le permis de conduire, c'est un privilège. Nous autres, on doit vérifier que les gens qui sont sur la route sont et avec les bonnes compétences et les bonnes habiletés.
Ce dernier indique que des gestes sont déjà posés pour éviter que des personnes racisées soient victimes de profilage de la part des policiers. Parmi ceux-ci figurent l'offre de formation et l'embauche de policiers d'origine diverse. Le directeur général de l'ADPQ tient aussi à mettre en lumière certains chiffres publiés l'an dernier en lien avec des infractions au Code de la route.
Et par exemple, je vous donne un exemple concret. Là, à Laval, 450 000 de population à peu près. L'an dernier, il y a eu un sondage. On a vérifié, il y a plus de 20 000 personnes qui ont des sanctions sur leur permis de toutes sortes. Donc, l'article 636 nous permet de faire ces vérifications-là de façon aléatoire.
L'ADPQ croit fortement que l'encadrement légal doit rendre clairs les paramètres à l'intérieur desquels les policiers peuvent travailler tout en protégeant des vies. À l'issue d'un processus d'analyse précédant le renouvellement du contrat avec la centrale d'appel d'urgence, le service incendie de la ville de Maniwaki s'est tourné vers COCA. Ce choix avait été questionné par l'Association des gestionnaires en sécurité incendie de la vallée de la Gatineau, alors que la majorité des brigades incendie du territoire ont choisi le groupe CLR. C'est d'abord pour ces outils de gestion que le centre de répartition d'appels d'urgence COCA a été choisi par la ville de Maniwaki. Le service incendie utilise en effet une application qui permet de connaître en temps réel le nombre de pompiers disponibles, explique Jason Campbell, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Maniwaki.
Dans cette application-là, on peut donner si on s'en vient à la caserne ou s'ils sont non disponibles, ce qui me permet aussi de sauver de nombreuses minutes avant d'appeler une entraide d'un voisin.
Cette application est maintenant fournie par COCA, alors que le service incendie de la ville de Maniwaki devait payer en plus pour l'obtenir. Maniwaki a aussi préféré COCA pour sa technologie plus avancée, selon Jason Campbell, qui permet de géolocaliser les véhicules, les bornes-fontaines et les rampes de mise à l'eau.
Si on parle des bornes-fontaines, j'ai également accès à savoir où sont mes bornes-fontaines et le nombre de galonnages d'eau que celle-ci peut me permettre selon le secteur de la ville. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est intéressant dans la réalité qu'on a d'un 200 appels par année, dont peut-être 160, 180 appels qui sont sur le territoire de la ville, sur un réseau d'aqueduc. Pour nous, ça fait une différence majeure. Par contre, est-ce que c'est la réalité de tout le monde? Mais sans doute pas.
Dans le cas où une municipalité voisine demanderait une entraide au service incendie de la ville de Maniwaki pour intervenir lors d'un incendie, il suffira au répartiteur des deux centrales d'appel d'urgence de se parler par téléphone pour envoyer les pompiers de Maniwaki sur les lieux. Un processus qui se compte en secondes, selon Jason Campbell. L'an dernier, la classe de 5e et 6e année de l'école Saint-Boniface de Bois-Franc tenait son tout premier marché de Noël. Une première édition qui s'est soldée par un succès retentissant. Pas étonnant que l'enseignante Sylvie Kreit décide de proposer la deuxième édition cette année. Évidemment, elle ne travaille pas seule, mais bien avec ses élèves. Sylvie Kreit nous explique leur part de travail.
Les élèves ont comme tâche de faire l'allocation des tables auprès de nos artisans locaux. Cette année, on a approché nos anciens participants, puis de bouche à oreille, ça a fait en sorte qu'on a eu des nouveaux qui ont voulu participer avec nous. C'est ça, les élèves approchent les artisans, puis ils doivent préparer la salle là, la veille du marché.
Comme l'an dernier, les gens pourront magasiner auprès d'une vingtaine de marchands et artisans de chez nous. En nouveauté cette année, il y aura un salon du livre scolastique et tous les profits seront remis à l'école. Les finissants ont également une table où la recette des ventes ira pour leur graduation. Une élève qui était également présente l'an dernier nous parle de son expérience. Voici Béatrice Bénard.
C'était vraiment le fun, c'était très grand, il y avait beaucoup de personnes. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que je suis pas toute seule.
Le marché de Noël se tiendra le 3 décembre prochain entre 10h et 18h à la salle Donna Hubert de Boisfranc. C'était vos actualités locales et régionales de CHGAFM.